Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est évidemment dans ce studio avec moi, particulièrement en forme en cette fin de saison, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au programme aujourd'hui, vous faites peut-être partie de ces gens qui font et refont les choses afin que tout soit toujours parfait. Vous ne confiez jamais ce que vous pouvez faire vous-même à un autre. Eh bien, vous faites peut-être partie du clan des perfectionnistes. Alors c'est vrai que c'est peut-être une qualité, mais cela peut aussi rimer avec stress, fatigue et sentiment de culpabilité. Alors, on va vous aider aujourd'hui à vous libérer, à réduire ce perfectionnisme qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Et pour cela, nous recevrons la psychologue Juliette Marty, qui vient de publier un livre sur le sujet. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, Jimmy nous dira tout aujourd'hui ce qu'il y a à savoir, en tout cas sur l'infection à chlamydia. C'est joli comme nom, vous trouvez pas? Et pourtant, cette infection sexuellement transmissible peut faire de gros dégâts. Jimmy va tout nous expliquer. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous décryptera la baisse de libido chez les hommes. Et oui, ce n'est pas qu'un problème féminin.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour débuter ce magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Anthony.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Lorsque je vais aux toilettes, je suis soit constipé, soit j'ai la diarrhée, mais rarement j'ai des selles normales. Pourtant, ma nourriture est sensiblement la même tout le temps. On parle d'attestats paresseux. Est-ce que ça peut être ça? Et qu'est-ce que ça veut dire des attestats paresseux?
Alors pour vous éclairer Anthony sur ce problème assez gênant, effectivement, on a interrogé pour vous le docteur Jean-Jacques Reynaud, il est gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Comment expliquer votre alternance diarrhée-constipation? Ce paradoxe est généralement sans gravité, il est fréquent. Il s'agit d'une fausse diarrhée de constipation. En fait, votre intestin peut être qualifié de paresseux car son transit est ralenti. Les selles s'accumulent pendant plusieurs jours, fermentent, se liquéfient puis finissent par sortir sous la forme de débâcle. Alors que faire? Si le symptôme est récent et non transitoire, surtout après l'âge de 50 ans, il faut consulter pour discuter d'une coloscopie. Ensuite, il faut traiter la constipation, pas la diarrhée. Tout d'abord, en faisant la paix avec votre intestin paresseux pour l'aider à fonctionner. Il faut consommer plus d'eau, plus de fibres, bouger plus, respecter son rythme, c'est-à-dire en allant à la selle quand il vous le demande. Si nécessaire, en prenant un laxatif, il faut bien sûr prescrire un laxatif irritant en comprimé à base de plantes. Je vous conseille donc un laxatif doux, soit d'action rapide, qui peut être pris à la demande, comme le macrogol, soit d'action lente en prise quotidienne, comme un mucilage. Je préfère la seconde solution. Maintenant, à vous de jouer.
Voilà, c'était la réponse très pratique et très complète du docteur Reynaud au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, celle de Salomé, on va l'écouter.
Bonjour Jimmy, Mélanie. Alors j'ai lu quelque part que Elon Musk était autiste Asperger, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous pourriez expliquer la différence avec une personne qui serait juste atteinte d'un autisme classique? Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, effectivement, le mois dernier, je crois, Elon Musk a donc déclaré être atteint de cette forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. De quoi s'agit-il précisément?
Alors, ça fait partie des troubles du spectre autistique. C'est donc une forme d'autisme, mais qui ne va pas s'accompagner de déficience intellectuelle ni de troubles du langage. En fait, c'est un désordre, ce n'est pas une maladie, du développement d'origine neurobiologique, et en fait, qui va affecter essentiellement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. En clair, ils vont avoir du mal à décoder les situations de la vie quotidienne. Ils vont percevoir les cinq sens de la vie de tous les jours, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Mais la seule chose, c'est qu'ils vont décoder de façon différente. Ils vont avoir du mal à analyser et du coup ne pas pouvoir traiter l'information correctement. Ils vont donc avoir une appréciation confuse de la vie et de l'entourage. Et ça va être source de problèmes puisque c'est un problème lié aux interactions.
D'accord. Est-ce que c'est un syndrome qui est fréquent dans la population ou pas?
Alors, si on prend les autistes Asperger, on estime qu'ils sont, d'après les études, 3 pour 1000 habitants. Donc c'est assez rare. Enfin, ouais. Et si on prend l'ensemble des troubles du spectre autistique, on considère que c'est 1% de la population. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui reste relativement rare. Il y a un peu de fantasme, hein, souvent, puisqu'on considère que les autistes Asperger, étant donné qu'ils n'ont pas de retard intellectuel, ils ont même parfois...
Ce sont des génies même, hein, il y a eu quelques cas comme ça.
C'est décrit tel quel, alors qu'eux ont une véritable souffrance, car c'est comme s'ils étaient dans un autre pays où ils ne comprennent pas la langue, ouais, les codes, et ils essaient malgré tout de vivre avec les autres, et c'est parfois compliqué.
On a l'impression, parce qu'il y a eu des cas justement mis en lumière comme ça, comme celui d'Elon Musk, on a l'impression que ça touche plus les garçons, mais en fait ça serait peut-être à cause d'un sous-diagnostic féminin, je crois.
Alors on ne sait pas trop, c'est compliqué, les études sont un peu contradictoires. 80% seraient des garçons, donc simplement 20% des femmes, mais ça dépend des études, et on pense qu'il y aurait peut-être autant de filles que de garçons, mais que les filles, en fait, elles pourraient mieux s'adapter et feraient un peu plus de camouflage social pour faire avec ce trouble.
Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des difficultés malgré
Exactement.
Tout.
Exactement. Hein, ouais. Quoi qu'il en soit, on pense qu'il y a une part héréditaire puisque dans 50% du temps, on retrouve dans la famille un trouble du spectre autistique ou quelque chose qui y ressemble, même si encore une fois, on n'a pas de véritable cause identifiée.
Alors vous l'avez dit, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome dont on ne guérit pas et pour lequel il est important malgré tout d'être diagnostiqué, puisque vous avez décrit quand même les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Comment ça se passe pour ceux qui nous écoutent et qui se poseraient peut-être la question pour leur enfant? C'est quoi les signes qui doivent donner l'alerte?
Alors je vous l'ai dit, ils vont avoir des traits communs avec des troubles du spectre autistique, mais ils ne vont avoir aucun déficit intellectuel ni trouble du langage. La seule chose, c'est le rapport avec les autres qui va être différent. Ils vont avoir du mal à interagir et à communiquer. Et ils vont aussi en plus avoir une présence, un intérêt pour toujours les mêmes activités, stéréotypées, répétitives. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller amener votre enfant chez le médecin qui conduira chez le pédopsychiatre, car c'est un véritable trouble qui a été reconnu.
Et oui,
ça a été reconnu simplement en 1994, alors les premiers cas ont été décrits en 1943, justement par le pédiatre Heinz Asperger.
Waouh, vous avez révisé, Jimmy. C'est donc une sorte de handicap invisible, en quelque sorte. Mais pourquoi c'est si important de savoir justement quand son enfant est atteint? Parce qu'on peut proposer, c'est ça, un accompagnement à ses enfants?
Exactement, il n'y aura pas de traitement, ce n'est pas une maladie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne autiste, elle est dans son monde, alors que la personne Asperger, elle est dans notre monde à nous, mais à sa façon. Et donc le tout, c'est d'avoir une vie normale, ça passe par la scolarité, c'est pas parce qu'ils ont des bons résultats qu'ils arrivent à s'intégrer correctement. Donc on peut proposer une AVS, une auxiliaire de vie, qui peut l'aider à la maison, une éducation un peu différente, ne pas faire de sous-entendus, par exemple, pas de sarcasme, car ils ne sont pas sensibles à ça. Donc c'est une éducation un peu différente, bienveillante, pour qu'il puisse être épanoui le plus rapidement possible.
Le plus possible, inclus évidemment dans notre société. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour consacré au perfectionnisme quand il devient trop envahissant dans la vie quotidienne, voire même paralysant pour se réaliser. On va vous proposer un programme élaboré par notre invité du jour pour vous défaire de ce poids, assouplir les règles et les croyances inutiles qui encombrent les perfectionnistes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Ravie de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, comme tous les jours. Alors accueillons tout de suite notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous, Juliette Marty. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes psychologue clinicienne à Paris, spécialisée dans les troubles addictifs et anxieux. Vous êtes également l'autrice du livre « Et si vous étiez trop perfectionniste » qui est paru aux éditions Erol. Alors justement, on va commencer par la base quand même, nous expliquer un peu le thème en lui-même. C'est quoi? Comment vous définiriez finalement le perfectionnisme?
Le perfectionnisme, ça va être la recherche de faire toujours plus, d'atteindre l'excellence, avec cette idée que c'est jamais assez finalement. Il y a un espèce de paradoxe qui se crée entre si je réussis, c'est parce que c'était un coup de chance ou que mes objectifs n'étaient pas suffisamment élevés. Et si je rate, par contre, c'est que bah, je suis nulle et que je ne vaux rien.
Et c'est quelque chose que vous constatez en consultation. Vous avez l'impression qu'il y a une grande demande avec des gens qui justement se sentent trop perfectionnistes, alors qu'à la base, ça ne semble pas être un défaut, plutôt une qualité.
Il y en a qui mettent ça sur leur CV, hein, je crois.
Ah oui, c'est vrai. Quand on ne sait pas quoi dire,
c'est ça, mon plus gros défaut, c'est que je suis perfectionniste. C'est utile.
Il y en a beaucoup, effectivement, dans le cabinet qui viennent. Ça s'est pas mal révélé au moment du premier confinement, avec cette recherche d'être le parfait confiné, de rentabiliser absolument
son
temps.
Je fais le meilleur pain, je fais le meilleur potager. Je fais le... Ça, c'était moi le
potager. Je reste chez moi tout le temps et je ne sors pas, je respecte les règles, etc. etc. Après, il y a pas mal d'études américaines qui montrent que la population est de plus en plus perfectionniste aussi. Et puis après, chez les psychologues, il y en a beaucoup. Donc, c'était un sujet qui me parlait pas mal.
Il y en a qui viennent peut-être en consultation, d'ailleurs, pas pour ça. Ils vous décrivent des situations. Et c'est vous qui devinez finalement que ce trait de caractère, on verra après ce que c'est, si c'est ça vraiment ou un défaut ou une qualité. Mais vous leur dites, le problème à vous, c'est le perfectionnisme, c'est ça?
C'est ça, ça arrive un peu. On parle souvent des études, du travail. Et puis, on décortique un peu ce qui se passe.
Parce qu'ils viennent pas vous voir en disant, je suis parfaite, quoi. Je suis parfaite. Non,
ça n'arrive pas. C'est plutôt, je n'arrive pas à être parfaite.
Ah oui, d'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'on devient perfectionniste? Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce que c'est un trait qui se forge avec le temps, avec le caractère? Enfin, c'est compliqué.
C'est plutôt un tempérament ou un état d'esprit qui va se former depuis la toute petite enfance, en fait. Soit par apprentissage qu'on va dire direct sur le fait que les professeurs nous renforcent, nous félicitent quand on a des bonnes notes. Quand on est en primaire, on nous donne des bons points ou des bonnes étoiles. Ou les parents qui sont extrêmement contents quand il y a des bonnes notes à la maison. Ou à l'inverse, un apprentissage plutôt indirect avec un entourage qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses et avec cette envie de faire comme eux, en fait. Et du coup, on se construit petit à petit comme ça.
Est-ce que ça touche plus les hommes ou les femmes? Moi, j'ai l'impression que c'est plus les femmes, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
Non, c'est plutôt les hommes et les femmes, en fait. Il n'y a pas d'études à proprement parler sur le perfectionnisme. Après, il y a quelques chercheurs qui tendent à dire que perfectionnisme et charge mentale féminine.
C'est pour ça que je faisais le lien, effectivement.
C'est assez lié, mais il n'y a pas d'études, en tout cas, qui prouvent.
Parce que du coup, quand on est perfectionniste, on n'est pas uniquement sur le lieu du travail. C'est-à-dire que même à la maison, par exemple, si le lave-vaisselle est mal rangé...
Vous, ça va ?
Oh, moi, ça passe au-dessus. Le lave-vaisselle mal rangé, tant que ça rentre et que ça ferme, ça va. Mais s'il y a une chaussette mise de côté, est-ce que ça aussi, ça peut rentrer dans le cadre de la vie quotidienne ? Et est-ce que d'ailleurs, ça peut avoir un impact négatif sur la vie de famille ou la vie de couple ?
Alors, ça peut rentrer effectivement dans le cadre de la vie quotidienne, plutôt dans l'idée d'être le meilleur conjoint, la meilleure conjointe, la meilleure amie possible. Si on reçoit par exemple des amis à dîner, ça va être l'envie de réaliser forcément un repas digne d'un étoilé et pas juste réchauffer un plat picard avec des phrases de type...
C'est le minimum, moi je trouve. Moi je trouve que c'est comme c'est les règles de savoir, mais
ça Picard, c'est très bien. Enfin, moi j'aime bien Picard. Ouais, d'accord. Bah, voilà, on voit la différence. Ouais. Ouais. Qui est
vous viendrez manger chez moi, mais j'irai pas chez vous, Jimmy. Vous distinguez dans votre livre deux types de perfectionnisme, le positif et le négatif. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
Le positif, ça va être justement le côté plutôt qualité du perfectionnisme, le fait de se fixer des objectifs assez hauts qui restent en fait atteignables et où on est satisfait de les avoir atteints. Dans le perfectionnisme négatif, ça va être des objectifs qui sont jamais atteignables. Et même quand on les atteint, on n'est pas satisfait. Du coup, on vit dans une espèce d'insatisfaction permanente où on n'est jamais content de soi.
Du coup, est-ce que ça peut en quelque sorte nous paralyser, nous empêcher de prendre des initiatives, d'aller de l'avant et finalement, ça nous dessert plus qu'autre chose ?
Oui, ça va être cette notion de peur de l'échec ou de peur de ne pas réussir. Et du coup, on n'essaye même pas de... Parce que finalement, si j'essaye pour pas être le meilleur ou la meilleure, à quoi bon ?
Du coup, je fais pas. Mais ça, du coup, ça ressemble aussi un petit peu à la procrastination. J'ai toujours du mal avec ce mot, procrastination. Repousser toujours au lendemain, mais alors qu'on est perfectionniste.
En fait, la procrastination, on a souvent cette idée que c'est repousser au lendemain. Finalement, c'est repousser au lendemain parce qu'il y a une peur derrière. Mmh. Et ça va être la peur d'éviter l'envie plutôt d'éviter une situation désagréable ou une émotion désagréable. Dans le cas du perfectionnisme, ça peut être éviter une émotion d'anxiété et de se dire que finalement, si on rend un devoir, un travail au dernier moment parce qu'on l'a procrastiné, on ne va pas nous juger, nous, ni notre travail. Ce sera juste ce qu'on aura rendu un peu à la dernière minute sans y avoir pris vraiment beaucoup de temps.
Du coup, quand on veut déclarer ses impôts au dernier moment, c'est pas...
J'étais sûre vous alliez faire une allusion aux impôts. Je sais pas pourquoi.
C'est qu'on est trop perfectionniste, on dira ça à l'inspecteur des impôts.
Moi, je remplis toujours le premier jour de la déclaration. Vous, je pense que c'est le dernier.
Voilà. 23h50.
On n'est pas très proche au niveau mental, hein, c'est sûr. Merci Juliette Marty. On va poursuivre bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Dans ce rendez-vous, on va continuer cette émission sur le perfectionnisme. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut repérer que l'on est vraiment trop perfectionniste, mais aussi comment on peut faire pour petit à petit se défaire de ce comportement à son rythme, mais bien sûr, hein, un programme pour changer en mieux, mais tout doux, vous allez voir, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. On parle de si on est finalement trop perfectionniste aujourd'hui. Comment faire avec notre invitée Juliette Marty. Alors je rappelle, vous êtes psychologue clinicienne, l'autrice du livre « Et si vous étiez trop perfectionniste » qui est paru aux éditions Erol. Alors on a vu tout à l'heure ce qu'était finalement le perfectionnisme, mais comment est-ce qu'on repère, parce qu'on le disait en consultation, ils n'arrivent pas en vous disant « Aidez-moi, je suis trop perfectionniste ». Comment on peut faire ce travail sur soi et se rendre compte finalement qu'on a ce problème quand c'est problématique?
Alors ça va être deux choses, ça va être d'abord tout ce qui va être les pensées qu'on peut avoir à certains moments, des injonctions qui arrivent un peu au quotidien de « il faut être le meilleur, j'ai pas le droit de faire d'erreur, je dois faire toujours de mon mieux » qui parasitent un peu l'esprit et ensuite plutôt des comportements qu'on peut repérer au travail ou dans la vie de tous les jours, le nombre d'heures qu'on fait à son travail, est-ce qu'on a l'impression de relire 12 fois un mail qu'on doit envoyer pour être vraiment sûr de ne pas avoir fait une faute d'orthographe, toutes ces petites choses en fait qui... peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous dire que là quand même on tend un peu vers le perfectionnisme.
Ce que vous décrivez c'est ça, c'est certaines règles ou des croyances qui sont inutiles dans le sens où finalement elles ne vont pas nous aider à nous sentir bien. Ça fait partie de ce que vous décrivez, c'est un des exemples, c'est-à-dire qu'on évite de se fixer, je sais pas, zéro faute d'orthographe dans un mail sinon on ne l'envoie pas. Ça veut dire quoi une règle qui est inutile dans la vraie vie ?
Une règle inutile en fait ça va être une croyance dysfonctionnelle poussée à son extrême, donc quelque chose d'extrêmement rigide. Avec par exemple cette règle de je dois toujours faire bien.
Vous avez des cas de patients qui vous reviennent comme ça avec des trucs un peu extrêmes?
Justement, je prends l'exemple des mails. J'avais un patient qui revérifiait une quinzaine de fois tout ce qu'il faisait et qui était arrivé à un niveau tellement extrême que finalement il se levait la nuit et il avait des réveils nocturnes pour aller revérifier ce qu'il avait déjà envoyé et s'assurer que tout allait très bien alors qu'il n'y a jamais eu de soucis et que... finalement,
si on doit se réveiller la nuit pour relire des mails, ça peut pas vous arriver, Jimmy, hein, je pense.
Oh non, genre très bien.
Pour les infos non plus, se réveiller la nuit, c'est bien fait.
23h55, je vous ai dit, tout va bien.
Bon, très bien.
Alors, quand on est perfectionniste, finalement, on se met une grosse pression pour réussir, c'est-à-dire qu'on se met des objectifs toujours trop élevées. En fait, vous appelez ça des normes élevées, si on ne se trompe pas, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est exactement, des normes trop élevées?
Des normes trop élevées, ça va être des standards personnels extrêmement hauts, des objectifs vraiment inatteignables. C'est un peu, je prends souvent l'exemple de la to-do list avec mes patients, où les personnes qui font des to-do list ont souvent tendance à faire des to-do list avec 50 tâches à faire dans la journée.
Moi j'en fais, mais alors elles restent très très longtemps à l'état de 50 tâches. J'arrive pas à
vraiment. Et qui ne sont pas faites. Ouais. Et ça, c'est des normes qui, en fait, c'est inatteignable, 50 tâches dans la journée, ou alors on ne travaille pas, on fait rien et on reste devant sa feuille à faire les tâches. L'idée, c'est qu'en fait, faudrait réussir à faire baisser ces normes-là et ces standards pour avoir une to-do list plutôt atteignable et avoir cette satisfaction de barrer les tâches et de changer de to-do list le lendemain.
Est-ce que vous avez justement des conseils pour qu'on réussisse petit à petit? Qu'est-ce que vous conseillez dans votre bouquin, par exemple, pour se débarrasser des règles et des croyances inutiles, peut-être des exercices pratiques que vous proposez?
Alors, il y en a plusieurs dans le livre. Je vais essayer de faire un peu court, mais l'un des exercices que j'aime bien, c'est l'exercice des 5 pourquoi. L'idée, c'est de partir d'une première croyance qu'on a ou d'une inquiétude qui nous vient. Par exemple, si je prends aujourd'hui, je vais prendre un exemple personnel, l'interview. Cette interview me stressait, donc je me suis demandé pourquoi est-ce que ça me stressait. Bon, parce que j'ai pas l'habitude de passer à la radio, ça pourrait m'inquiéter, et puis je pourrais me mettre à bafouiller. Bon, bah, ce serait quoi le problème que je bafouille? Bon, bah, je pourrais avoir l'air ridicule.
Vous inquiétez pas, on bafouille tous les journaux aussi. Voilà.
Il suffit d'écouter Mélanie et vous rendre compte. Il n'y a pas que vous.
Et puis du coup, bah, si j'ai l'air ridicule, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, je pourrais perdre un peu de crédibilité professionnelle et arriver à terme à une idée... que bon, bah, du coup, je ne serai pas reconnue par mes pairs, par mes proches, par mon entourage. Donc finalement, si je rate cette interview, je vais perdre toute ma reconnaissance professionnelle. C'est assez extrême, finalement.
Ah bah oui, j'allais vous dire, j'espère que c'est parce que vous avez fait comme cheminement.
Votre truc, là. Moi, je ne vous pose pas ce genre de questions tous les jours, hein, quand j'ai un détente. Et puis...
L'idée, justement, quand on a un peu ce côté perfectionniste et qu'on peut, finalement, en démêlant... les choses arrivées à cette conclusion-là, c'est de se dire, bon, bah, si quelqu'un en face de moi, justement, est en train de me dire ça, je lui répondrai quoi? Est-ce que vraiment je serais en train de lui dire, bah oui, si tu te plantes à ton interview, c'est fini. Demain, tu ne travailles plus, tout le monde
va se fermer ton cabinet,
dans Paris.
Tout va bien.
Mélanie m'a dit qu'il y avait 300 000 personnes qui allaient m'écouter, c'est fini. Là, l'intégralité de la France va se dire que je suis nulle. Et finalement, réussir un peu à prendre du recul et se dire que bon, c'est 45 minutes, un jeudi après-midi, au pire.
Ça
c'est
ira.
Pas si grave.
Ça ira très bien. Merci. Juliane Marty, ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre notre dossier sur les perfectionnistes, les trop perfectionnistes. Et pour la dernière partie de l'émission, on va voir comment on peut s'en débarrasser très concrètement. Et ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible en y allant étape par étape. On va vous les détailler. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être de retour très vite, juste après un peu de musique et de la bonne. On va écouter un titre des Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.
With the bird, the shed is so lonely.
C'était les Red Hot Chili Peppers sur Europe 1 avec ce titre Scar Tissue.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi, c'est vous Juliette Marty. Alors je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et vous avez écrit le livre Et si vous étiez trop perfectionniste, qui est paru donc aux éditions Erol, livre et programme dont on parle cet après-midi. Alors vous nous avez expliqué comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est perfectionniste mais aussi quelles en sont les conséquences finalement. Vous dites qu'il existe deux grands types de perfectionnistes, plusieurs profils, c'est lesquels?
Alors justement, ça va être les profils des personnes en fonction de comment est-ce qu'ils ont appris à être perfectionnistes. Est-ce que c'est plutôt dû à des récompenses ou entre guillemets des punitions quand ils étaient petits, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'ils ont fait comme les autres pour essayer de comprendre davantage comment est-ce que ça s'est construit.
Déconstruire, c'est important de comprendre. C'est ça. Ouais.
C'est comprendre d'où ça vient pour réussir à déconstruire et réapprendre d'autres fonctionnements en fait et d'autres mécanismes. Et du coup, comprendre aussi les croyances et les peurs qui sont associées à ces mécanismes-là.
Et du coup, quand on se débarrasse de ce perfectionnisme, est-ce que ça permet vraiment de se libérer ou même de réaliser ses rêves? Est-ce que vous avez un exemple de patient en tête qui, justement, a pu être en quelque sorte sauvé et libéré de ce perfectionnisme qui l'embêtait?
Alors, j'ai mon patient avec ses 15 emails et 15 vérifications, plutôt d'emails par jour, qui aujourd'hui ne vérifie plus ou alors une seule fois. Et ça va
du coup, il fait
mieux.
Beaucoup de fautes dans ses mails, mais ça se passe bien.
Il fait pas de fautes et il se réveille plus la nuit. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et non, j'en ai un paquet en tête. Mais...
Comment est-ce qu'on fait alors, du coup, concrètement, pour réduire ses comportements? Vous en avez, j'ai guéri, hein, donc vous parlez de ce patient avec ses mails, mais combien de temps ça a pris, par exemple, pour celui-ci ou pour d'autres? J'imagine que si c'est quelque chose qui est ancré depuis l'enfance, vous l'avez dit, que ce soit pour copier les parents, l'entourage, ou parce qu'on était très très touché par ses récompenses et, ou ses punitions, on va mettre, je sais pas, un mois, six mois, un an, trois ans, ou autant d'années qu'on a subi ça, on va mettre d'années à s'en défaire, je sais pas.
Ça va dépendre un peu des personnes, des patients. Et de leur vécu, l'idée c'est que ça se fait pas effectivement d'un claquement de doigts comme si on avait une baguette magique, mais ça prend oui plutôt quelques mois voire quelques années en fonction des croyances et depuis combien de temps c'est installé, avec l'idée que effectivement l'objectif c'est de repérer toutes les pensées, tous les comportements, voir dans quel domaine de la vie le perfectionnisme touche. Est-ce que c'est qu'un seul domaine, du coup c'est
plus facile à guérir,
ou plusieurs domaines, ce qui prend du coup plus de temps parce qu'on fait pas tous les domaines d'un coup, mais domaine par domaine, et comportement par comportement.
Donc ça va prendre du temps, de nombreuses étapes, mais malgré tout vous dites que le perfectionniste va rester quand même anxieux et que c'est normal, c'est-à-dire qu'il faut accepter le stress et l'anxiété.
C'est ça, faut accepter déjà l'émotion d'anxiété, c'est normal que ça fasse peur de changer. Et puis en plus de ça, l'idée c'est de changer, mais en prenant le temps de changer. Et forcément, il va y avoir des erreurs dans les changements qu'on va faire, dans les choix qu'on va faire. Et pour un perfectionniste, faire des erreurs, c'est compliqué. Et ça peut faire peur.
Comment vous l'avez guéri, ce patient qui se réveillait la nuit, même pour vérifier si les mails envoyés n'avaient pas de faute, alors qu'il les avait déjà vérifiés 15 fois? Comment on s'y prend? Je sais que vous dites que c'est étape par étape, vous en détaillez même 9 d'étapes dans le livre. On n'a pas le temps forcément de les détailler toutes ici, mais... Par exemple, vous l'avez fait, comment c'est par étape dans un cas comme celui-ci?
Nous, on a d'abord commencé plutôt sur l'aspect émotion et comprendre quelles étaient ses angoisses liées à toutes ces vérifications d'email dans son travail. Donc, lui, bon, c'était de finir par perdre son emploi et si on tirait un peu le fil du scénario catastrophe, son emploi, sa femme et se retrouver à la rue.
Oui, quand même.
Donc, c'est des angoisses assez profondes. L'idée, c'était de reprendre, par exemple, une des étapes qui était de modifier le comportement de vérification. Donc, on était sur 15 vérifications par email. Bon, on est descendu à 12 vérifications. Puis, une fois que 12, il ne se passait rien, on est descendu à 10, et puis qu'une fois qu'à 10, il ne se passe rien, on a continué à diminuer jusqu'à
ce
que...
C'est de la thérapie cognitivo-comportementale, en fait.
C'est l'idée du livre, en fait, c'est de reprendre les principes de la thérapie comportementale et cognitive avec allier autant les pensées que les émotions, que les comportements et comment on fonctionne ensemble.
Et ensuite, on guérit pour la vie, ou est-ce qu'il y a un risque de rechute, de récidive à des occasions particulières, je ne sais pas, un mariage, un nouveau job? Est-ce qu'il y a des périodes de fragilité?
Il peut y avoir des périodes un peu de stress où on a vraiment envie de bien faire et où effectivement, il peut y avoir, sans forcément parler de rechute, mais... le perfectionnisme qui revient un peu au galop avec l'idée que ça fonctionnait quand même pas si mal à l'époque et je réussissais plutôt bien. Du coup, l'idée, c'est de repérer un peu les signaux d'alerte qui pourraient nous dire que là, c'est en train de revenir.
Merci beaucoup Juliette Marty d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, je rappelle votre livre « Si vous étiez trop perfectionniste » paru aux éditions Erol. Merci encore Juliette.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Jimmy nous dira tout aujourd'hui sur l'infection à chlamydia, un joli nom fleuri pour une belle saleté d'infection sexuellement transmissible, bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un éclairage sur une IST, une infection sexuellement transmissible, en augmentation ces derniers temps d'ailleurs, la chlamydia. Alors de quoi s'agit-il précisément? Quels sont les symptômes? Qu'en savez-vous? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
La chlamydia, c'est une fleur.
Je pense que ça touche les parties intimes.
C'est une maladie concernant la sexologie de la femme.
La chlamydia est une MST, une maladie sexuellement transmissible.
C'est une infection qui a été transmise lors d'un rapport.
Ou en allant aux toilettes, si c'est pas propre.
Les signes, ce serait de la fièvre, des démangeaisons, peut-être des pertes un peu plus importantes.
Je pense qu'il y a une petite irritation. Et que ça fait un peu mal, oui.
On a du mal à uriner, ça brûle. Et puis on peut avoir même des petites marques sur le sexe, comme un petit bouton.
La chlamydia m'évoquerait les femmes, mais je pense que ça touche autant les hommes que les femmes.
Il faut faire une prise de sang.
Je suppose que c'est un examen gynécologique lors des frottis.
Et puis on a les résultats et on voit si on a la chlamydia ou pas.
La solution, ça serait de se protéger.
Ça doit se soigner avec des antibiotiques.
Je crois qu'il faut prendre une pommade ou quelque chose comme ça.
Jimmy, on va tout revoir donc sur l'infection à chlamydia. C'est quoi précisément?
Alors, chlamydia trachomatis, c'est son petit nom. C'est une bactérie. C'est donc une bactérie.
Donc rien à voir avec les fleurs. Hein.
Non, exactement. Elle est très fréquente, en particulier chez les moins de 25 ans. Et elle peut se développer en l'absence de tout symptôme. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous rendre compte que vous avez cette infection. Elle touche les hommes comme les femmes et elle peut entraîner des graves complications car c'est l'une des premières causes de stérilité féminine en France.
Oui, rien de fleuri, effectivement. Alors, comment ça se transmet? On dit que c'est une IST, donc c'est par les rapports sexuels, j'imagine.
Exactement, ouais. Antonio, le micro-trottoir, quelqu'un dire sur les toilettes, non. C'est par les rapports, que ce soit de la pénétration vaginale, anale, la fellation, et même si c'est plus rare, le cunnilingus. Alors, c'est loin d'être anodin, puisque, alors mes chiffres sont un peu anciens, pardonnez-moi, mais en 2016, on estime à plus de 250 000 personnes qui ont été diagnostiquées
quand même,
avec chlamydia.
Hein,
et la prédominance de l'infection, elle est plutôt constatée chez les femmes, en particulier chez les 15-24 ans, en Île-de-France, mais aussi dans les départements d'outre-mer.
C'est quoi les symptômes qu'on va avoir quand on a été infecté par cette bactérie?
Alors ça, c'est traite parce que chez la femme, vous pouvez n'avoir aucun symptôme. C'est asymptomatique. Et puis, il peut y avoir d'autres symptômes, comme des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs à l'urine lorsque vous faites pipi, un col qui va être un peu irrité lorsqu'on vous examine. Et puis, le problème, c'est que ça peut entraîner des complications. C'est qu'à long terme, eh bien, il peut y avoir une infection des trompes qu'on appelle la salpingite, dont la conséquence est très simple, c'est la stérilité tubaire, c'est-à-dire que le spermatozoïde ne peut plus passer au bon endroit pour être fécondé, mais aussi les grossesses extra-utérines. Donc ça veut dire que derrière une petite infection qui semble banale, de graves complications peuvent survenir, en particulier chez les femmes.
Donc vous disiez chez les femmes, attention, donc, parce que pour toutes ces complications, et puis parce que parfois la maladie est silencieuse. Chez les hommes, c'est pareil, ou il y a des symptômes un peu plus parlants, peut-être?
Alors, les hommes peuvent aussi n'avoir aucun symptôme.
D'accord.
Et puis, ils peuvent en avoir certains. Alors, celui-là, il n'est pas très glamour, pas très sexy, mais c'est de se réveiller le matin avec une tache blanchâtre dans le slip.
Ah, oui.
Ils pensent qu'ils ont eu une érection et qu'ils ont éjaculé.
C'est des écoulements.
Mais non, c'est des écoulements. Et souvent, il y a très peu de symptômes urinaires. Contrairement au gonocoque, qu'on appelle la chaude pisse, qui va brûler comme
non,
si vous pissiez des lames de rasoir, là, vous allez avoir très peu de symptômes et parfois une petite douleur testiculaire. Et puis, si jamais vous avez fait des choses avec votre bouche, eh bien, vous pouvez aussi avoir du chlamydia dans le pharynx. Donc, il peut y avoir aussi des infections ORL. Donc, quoi qu'il en soit, ces symptômes désagréables nécessitent quand même des traitements.
Bon, ça a l'air quand même compliqué, tous ces symptômes. On peut en guérir, rassurez-nous, une fois qu'on est infecté. Bon, même si on parlera de prévention, mais comment on guérit?
Alors,
ça?
Vous l'avez dit, Mélanie, le meilleur des traitements, c'est la prévention, puisque seul le préservatif permet d'éviter d'attraper ce chlamydia. Mais si jamais vous l'attrapez par malheur, ou par malchance, ou par infidélité du partenaire, eh bien, on va vous donner des traitements antibiotiques. Mais avant de faire ça, on fera aussi le bilan des IST, car si jamais vous êtes positif au chlamydia.
Il y en a parfois d'autres à côté.
Exactement. Vous avez le droit d'avoir eu le gonocoque, la syphilis, le VIH qui existe encore malgré tout, même l'hépatite B qui peut se contaminer et se transmettre par voie sexuelle. Donc vous aurez droit à des antibiotiques et aussi un bilan et un peu d'abstinence ou en tout cas des rapports protégés pendant quelques temps.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils et bien sûr, donc je le rappelle également, moi aussi, le meilleur rempart contre les IST, c'est de sortir couvert. Le préservatif, ça reste toujours le premier réflexe.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, de retour bien sûr avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, c'est dans quelques toutes petites minutes, alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La sexo, ce sera après un peu de musique avec une découverte européenne. C'est la chanteuse Elliot Jane. Ça s'appelle À la vie, à la mort.
J'aimerais bien te revoir allongée sur le sable. Dis-moi comment faire pour te réveiller. Je donnerai cher à la terre pour tout te raconter. J'aimerais bien te tendre un piège, toi. Prisonnière du ciel, t'étais trop jeune, t'étais trop belle, t'étais trop conne. Super héros des temps modernes. Raconte-moi une fable de philosophie. Décembre, un dernier verre de trop. Danser en soirée disco. Boire un dernier verre. Boire un dernier verre de trop. Décembre, tu sais ici tout a changé. On n'attaque plus les murs. Tu sais ici tout a changé. J'aimerais bien te revoir prendre le dernier métro. Écrasé sur mon mur, ton premier mégot. J'ai besoin, je me fane du tout premier slow. Dans un squat ou un van. Super rétro, à la vie, à la mort. Souviens-toi, nos idoles. Imperfecto, raconte-moi une fable de super-héros. Descends, bois.
D'entendre la chanteuse Elliot Jane sur Europe 1 avec son titre À la vie, à la mort, une ode qui nous incite à profiter du moment présent. Voilà comment Elliot Jane décrit ce morceau.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, il va falloir répondre à la question de Frédéric. On l'écoute.
Bonjour, alors moi j'ai une petite question. Mon mari me fait comprendre en ce moment qu'il a plus vraiment envie de faire l'amour. Il me dit qu'il est fatigué le soir. Pourtant, il chôme pas à faire son sport 5 fois par semaine. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup.
Alors, bon, pour une fois, une femme qui se plaint d'un mari qui n'a plus de libido, on a souvent plutôt des questions inverses. Catherine, c'est vrai qu'on peut être fatigué le soir après le travail, on n'a pas toujours envie de faire l'amour, mais si c'est un manque d'énergie, effectivement, le côté, lui, il fait du sport 5 fois par semaine, du coup, paraît un peu curieux.
Oui, mais parce que le sport offre aussi une jouissance cérébrale importante. Donc, il trouve du plaisir ailleurs. Le sport en fait partie. C'est le lieu à la fois où il va décharger toutes ses tensions et c'est le lieu qui lui permet de fabriquer de bonnes hormones que la sexualité pourrait lui permettre de fabriquer. Et donc, à ce titre, il est comblé.
Jimmy, il risque rien de ce côté-là, au moins. Ah pardon, je croyais que j'étais à l'antenne.
Mais du coup, on peut comprendre qu'elle soit vexée, parce que s'il dit qu'il est fatigué alors qu'il développe certainement beaucoup plus d'énergie en essayant de soulever de la fonte ou même en courant des kilomètres et des kilomètres, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, son interrogation, elle est légitime.
Bien sûr qu'elle est légitime. Après, le problème ne veut pas dire nécessairement avec elle, mais en tout cas, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disponibilité pour la relation, pas de disponibilité pour la sexualité. Alors, il y a peut-être beaucoup de jouissance au travail, beaucoup de jouissance dans le sport. Mais effectivement, elle peut se demander comment se fait-il qu'elle est passée à la trappe.
Oui, donc au sport, d'ailleurs, il n'y a pas que la fonte, il y a peut-être quelqu'un d'autre au sport.
Ça peut être aussi.
Est-ce qu'il est très musclé ou pas ? C'est ça, il faut se demander. Hein.
C'est ça.
Donc, ça peut être une excuse, un mensonge.
Ça peut être, oui, mais en tout cas.
Détective Gomez, peut-être raison, en fait.
Non, mais bien sûr que c'est. Alors, encore une fois, il faut qu'on s'accorde les uns et les autres qu'il puisse y avoir dans la vie de l'autre des pauses. Des pauses parce qu'on se remet en question.
Moi, si Jimmy me dit demain, je vais à la salle de sport tous les jours, j'appellerai son épouse en lui disant, j'ai un doute.
Bah, peut-être que Jimmy aura découvert les effets.
Les joies d'haltérophilie, oui.
Exactement, exactement. Bon, le fait est que, bien sûr qu'il y a des moments dans notre vie où on n'est pas disponible tout le temps à la sexualité, et c'est vrai pour les hommes aussi. Et il y a tellement parfois beaucoup plus de facilité à être dans des jouissances autres, comme professionnelles par exemple, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux de devoirs, de fidélité, il y a peut-être parfois plus de créativité, ou parfois c'est un boulot qui est un peu toxique et du coup effectivement qui épuise beaucoup. Mais ceci étant, c'est important de savoir si la fatigue n'est pas l'expression d'une déprime ou la fatigue n'est pas l'expression d'un silence qui se fait volontairement entre un homme et une femme parce que cet homme est en difficulté dans sa relation avec sa femme, dans sa projection d'avenir avec sa femme et du coup, par essence, dans son envie de sexualité.
J'ai une question pour vous, Jimmy. Quand on est très déprimé, on fait rarement 5 fois du sport par semaine. On a envie de rien, en général.
On a plutôt envie de rien, exactement. C'est louche, hein, ouais. Donc peut-être qu'il n'ose pas dire quel est le vrai problème, parce que vous parlez de jouissance professionnelle. Mélanie, vous êtes épanouie ici, mais pour autant, ça ne suffit pas à ce qui se passe ici à la radio. On a une relation à la maison, qu'elle soit familiale, amicale ou autre. Donc ça veut dire que peut-être qu'il n'ose pas dire réellement ce qu'il ressent, un problème avec des collègues, un problème financier ou autre, mais mieux vaut plutôt être honnête que de tourner autour du pot.
Oui, alors honnête, ça c'est sûr, parce que ça permet d'abord de se libérer de l'obligation de tous les jours de justifier de pourquoi on ne fait pas l'amour. Ça devient un peu plombant pour soi-même déjà. Et puis on fait souffrir l'autre, ce qui n'a fait qu'aggraver la culpabilité. Donc évidemment qu'il faut être honnête, à condition qu'on soit déjà honnête avec soi-même et qu'on sache ce qui nous arrive. Ceci étant quand même, vous avez des cadres professionnels où vous avez vraiment des gens qui mettent toute leur libido sur le cadre professionnel, par exemple des artistes, des gens qui écrivent.
Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie pour rien d'autre.
Toute la jouissance, elle est dirigée sur la création, par exemple. Et du coup, la sexualité passe complètement à la trappe. Comme vous avez des mamans...
Mais sans forcément insatisfaction du côté de la personne qui le vit. Si vraiment bien c'est sûr. Satisfaisant, que ce soit le travail ou la création.
Bien sûr, mais comme vous avez des mamans qui sont tout à l'épanouissement de leur bébé, et tout est dans la direction, c'est pas seulement parce qu'elles sont...
remplies de ça, et donc plus besoin
d'autre chose. Exactement, elles n'ont pas besoin d'être remplies d'autre chose. Donc, il faut pas toujours mettre ça sur une difficulté de couple. Oui, je vois lever les sourcils au ciel. Ok, non, d'accord. Et vous aussi, Jimmy. Bon, d'accord.
Au bout de combien de temps il faut s'inquiéter ? Parce que moi, si je suis
le
fatigué,
jour où il passe à 7 fois par semaine le sport.
Oui, voilà. On se laisse quoi ? Une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois ? Est-ce qu'on en parle à quelqu'un ?
Bah, je pense que dès que elle trouve que c'est déjà. Elle a noté que c'était qu'il y avait une absence de sexualité, qu'il y avait une fuite. Et effectivement, on peut se dire que s'il fait du sport pour se faire beau, qu'il ne fasse pas l'amour et qu'il soit toujours au travail, bien sûr qu'on peut se dire qu'il y a peut-être.
Lui accorde moi une journée de sport par semaine pour moi.
Voilà, mais c'est parce que là il y a
quelques minutes.
C'est ça. Non mais c'est
ambitieux.
Ce sont pas les mêmes enjeux, mais on peut effectivement y voir quelqu'un qui se fait qui se prépare à d'autres choses, qui se fait beau pour autre chose et pour une autre vie, d'autres conversations, qu'elle soit sexuelle ou non d'ailleurs. Donc oui, je pense que
il est temps de parler.
Vous auriez raison, Frédéric, d'échanger avec votre mari.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Oh là, ils ont la patate, vous allez voir.
Autant que vous, Stéphane, visiblement.
Non, mais on va parler d'Antoine-Augustin Parmentier.
Ah, le hachis.
Avant le hachis, il a quand même promu la pomme de terre en France.
Oui, d'accord.
Pour réduire la disette. Et puis, Frédéric Krieger, Monsieur Fritz, celui qui a popularisé les baraques à frites.
Ah bah oui, sans lui, alors,
et
les fêtes foraines seraient moins drôles.
Qui vous a donné la patate, vous ?
Ah bah moi, c'est évidemment, ils m'ont donné plus que la patate, Stéphane. Ils m'ont donné 100 patates. 100 patates ! Les inconnus, évidemment.
Ah, je vous reconnais bien, là.
Ben, eux aussi, on l'a compris, ils ont la patate. Alors, on va rester sur Europe 1, les écouter. Et vous aussi, surtout, restez avec nous sur Europe 1.